point de vue technique. On y a été fort, voilà. Alors évidemment, bon, bah là, il n'y a pas de rideau, hein, c'est comme ça, je ne choisis pas toujours. Hein. A priori, vous pouvez voir ce qui se prépare, mais je dis bien a priori, parce que depuis tout à l'heure, je maintiens votre attention grâce à des techniques assez avancées, d'hypnose plutôt radicale, dans un état semi-second, qui fait que tout ce qui vous entoure, sauf moi, vous le voyez sans le voir. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte, justement pour cette même raison. C'est pourquoi, le moment venu, vous risquez d'être surpris, voire saisi. Raison pour laquelle je me permets de vous prévenir dès à présent, il n'y a aucun danger. Voilà. Excusez-moi, mais du coup, ça me stresse un peu ce message-là. Ça, c'est tout moi. Voilà, je me fais rattraper. Je ne suis pas superstitieuse, mais en fait, je suis hypersensible. Donc, je préférerais l'écouter avant de commencer. Je suis désolée, hein, c'est vraiment pas poli, mais c'est ma mère, en fait. Donc, elle commence déjà à parler ce matin pour mon anniversaire. Et bah, forcément, je me demande si tout est OK, quoi. Je veux dire, c'est normal, c'est quand même des liens un peu particuliers. Enfin, là, je veux dire, on finit par s'attacher, quoi, avec le temps. Et en plus, elle sait que là, je suis en train de... Ouais, c'est mon anniversaire. Ce spectacle s'appuie sur une série de diapositives offertes par ma mère pour mon anniversaire. Et le début du début, c'est ma mère. Voilà, c'est le paysage que j'apercevais depuis les fenêtres de ma chambre d'enfant. Bon, un intérieur très simple, hein, comme on peut le voir, avec au premier plan bah, le fameux cendrier de ma grand-mère et juste derrière, le tourne-disque de ma grand-mère. Alors, ma grand-mère venait d'un milieu... Merde, je trouve pas le féminisme... Bon bah pauvre quoi, hein. Elle n'avait aucune éducation musicale. Cependant, elle avait récupéré d'une voisine qui déménageait, je crois, un tourne-disque et un vinyle. Un seul, qu'on écoutait en boucle avec mon frère à chaque fois qu'on lui rendait visite. Pierre et le loup. Prokofiev, super, mais oui, dites-le, avant. Prokofiev, Sergueï. Alors, Pierre et le loup, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est une pièce pédagogique. En fait, c'est pour enseigner aux enfants les différents instruments de l'orchestre symphonique. Mon grand-père a traversé la Méditerranée en s'enroulant dans la toile du chapiteau du cirque Amar. Le cirque Amar, c'était un cirque algérien qui tournait essentiellement entre la France et tout le Maghreb, mais aussi dans le nord de l'Europe. Et un soir, après une représentation dans la banlieue de Casablanca, il s'est caché dans l'immense toile du chapiteau avant que celle-ci ne soit repliée et que le cirque ne reparte le lendemain pour la France. Bouchaïb Albidaoui, c'est un chanteur et un violoniste marocain, très célèbre en son temps, notamment pour sa personnalité assez sulfureuse. Bouchaïb, il aimait beaucoup jouer, alors du violon bien sûr, mais aussi à des jeux d'argent. Et il se trouve que mon grand-père était son sosie. Et comme Bouchaïb aimait se travestir, eh ben, il arrivait à mon grand-père de se faire passer pour lui. Pour jouer. À des jeux d'argent. Non, pas du violon. Hein. Mon grand-père, il n'est pas violoniste. Non, non. Moi non plus, hein, d'ailleurs. Enfin, j'étais violoniste, mais c'est pas comme le vélo. Hi everybody, ladies and gentlemen, non-binary people, baby goats, welcome. Para esta increíble noche de best moments du plus grand concours de chansons européens. Tonight is a special one. Tonight is a birthday night. 60 années, muchos años de chansons multilingues, de chorégraphies élaborées et de refrains entêtants. 60 ans de joie, de déception, de dommages collatéraux et d'amour. Ça c'est délicieux d'être traversé in 2 hours d'un show et spécialement conçu pour accompagner d'une écoute distraite les plus pénibles de vos soirées. En léger fond sonore, laissez défiler ce ronron rassurant qui accompagnera sans la perturber toute autre activité de votre choix, que ce soit faire un clafoutis aux fraises, un masque à l'argile ou encore préparer une valise pour partir dès le lendemain à Casablanca sur la demande insistante d'une mère certainement trop présente. Mais qui sommes-nous pour en juger? Nous sommes là pour mettre du son dans votre salon et aiguiller une soirée qui n'était pas gagnée. Alors n'hésitez pas, bougez la tête et montez le volume. Je vais me mettre à parler depuis la chanson. D'un point de vue sensoriel, c'est assez audacieux. Côté dramaturgie, je sais pas si c'est mieux. Le personnage va vivre un moment fort, un truc
puissant va lui saisir le corps. Ah merde. Là, c'est moi le personnage. Bah, je sens rien là, il y a une couille dans le potage. Hein. J'étais hyper préparée, j'ai vachement bossé. Mon animal totem, sa corporalité. Avec une chorégraphe, quelqu'un de super en vue. Réveillé en moi cette puissance invaincue. Et comme j'avais plus trop de quoi la payer, ma choré n'est pas naze, elle est juste pas homologuée.
Ça s'appelle IR, c'est un spectacle de Louise Belmas qui est joué au théâtre La Flèche, 77 rue de Charonne, Paris 11.
Voilà, donc très en retard, pardon à dessous de scène, mais enfin ça m'a donné la possibilité de rencontrer Christophe Delessart, qui m'a parlé de sa prochaine pièce et de celle qu'il va jouer, de celle dont on va parler, je pense, dans dessous de scène.
Tout à fait.
Voilà. Donc, ce samedi prochain, eh bien, j'essaierai d'être à l'heure et de ne pas abuser de mes camarades. Ça en parlera du festival Regard Satellite du 27 février au 11 mars. Le programme, ça sera They Shot the Piano Player de Fernando Trueba et Javier Mariscal, Ashkal de Youssef Chebbi. Et puis également, on rencontrera plusieurs. Enfin, c'est tout un petit peu tout ce qui va se passer dans ce festival. Nous parlerons aussi de Bertrand Mandico et nous parlerons d'un film qui va sortir qui s'appelle Nuit Noire en Anatolie, qui a eu déjà plusieurs prix. C'est un film turc très très beau et c'est de Oshkan Alper. Très très bonne semaine et bien sûr, tenez bon et encore merci à mes camarades.
Merci.
C'est pas grave, 6 minutes de retard et 2 degrés au-dessous de zéro. Dessous de scène va pouvoir commencer. Oui, 2 degrés au-dessous de zéro, hein, quand même, vous vous rendez compte. Ça fait 10 jours qu'on a froid. Et on se plaint. Non, je vous jure, on se plaint. Pour 10 jours de froid. Il y en a qui en sont à 2 mois de bombardement. Il y en a qui en sont à 3 mois avec un frère otage des fous d'odieux. Il y en a qui en sont à 2 ans de guerre avec Poutine. Il y en a qui en sont à combien d'années de guerre dans certains pays d'Afrique pour les terres rares. Mais c'est quand même dur. Non, on va pas se plaindre pour quelques degrés au-dessous de zéro. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, quelques petits... Je me souviens quand même pour ouvrir ce magazine. Je me souviens que Roland rachetait 6 francs, les anciennes pièces de 5 francs en argent à ses camarades de classe, espérant les revendre 8 à des numismates du quartier de la Bourse. Je me souviens que dans le couloir 45-46 au troisième étage UFR de mathématiques de Jussieu, il y avait écrit sur un mur « Regardez par le trou et vous verrez l'amiante ». Je me souviens des gros clous d'acier, des passages cloutés. Oh, je me souviens que j'ai dû dire une bonne centaine de fois en quittant une boutique, un bistrot, une salle d'attente que je souhaitais « Bonne fin de journée ». Bonne fin de journée à des gens que je ne connaissais pas, pour lesquels je n'avais sans doute eu aucune affinité, et qui ne le méritait d'ailleurs peut-être pas. Je me souviens pas du goût des gaufres de ma grand-mère. Et pourtant, je revois son tablier gris et bleu, et les restes de sucre au fond de mon assiette en faïence, chaque fois qu'une odeur m'agrippe par les narines en passant devant un stand de crêperie dans la rue. Non, pas à chaque fois quand même. Surtout quand les crêpes sentent, mais qu'est-ce qu'elles sentent exactement? Je me souviens qu'Élodie et Steffi n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le premier mot de Mathéo, leur bébé. Est-ce que c'était « maman » ou « mama » ? Je me souviens d'un type que j'ai vu dans le métro, une semaine ou deux, tous les matins, à la même heure. Tous les matins, la même tenue, pareil. Tous les matins, il lisait un livre. Tous les matins, c'était le même livre. Il m'a même semblé que tous les matins, c'était la même page. Je me souviens de Fleur Pellerin, de Roselyne Bachelot et de ses interventions aux grosses têtes, de Françoise Nyssen et du scandale des travaux non déclarés à Arles et Paris dans sa maison d'édition, d'Aurélie Filippetti, de Jacques Toubon et de sa tache de vin, de Philippe Douste-Blazy, dit Douste-Blabla, de François Léotard, enculé par Fontéval sur une affiche dessinée par Camus, de Françoise Giroud, d'Alain Perfit avec ses grandes oreilles, d'André Malraux, de Jack Lang, de Jean-Philippe Leca, que je n'ai retenu que pour les calembours sur son nom dans les émissions de Stéphane Collaro, de Michel Dornano, qui n'est pas qu'un boulevard à Deauville, et comme ministre de la Culture, il me semble que j'ai oublié Jean-Jacques Ayagon et Renaud Donnedieu de Vabre et Christine Albanel. Je me souviens que le code de ma première boîte mail sur Minitel, c'était simplement le code de mon immeuble, AE283. Et je suis infoutu de me souvenir du code de mon actuelle boîte mail parce qu'il doit contenir au moins une majuscule, au moins trois minuscules, au moins un chiffre, au moins un caractère spécial comme dollar, esperluette ou hashtag et au moins 14 symboles. Je me souviens que plusieurs fois, j'ai cru reconnaître dans la rue Didier, un de mes meilleurs potes de collège. Ah, je croyais le reconnaître à sa coupe de cheveux, à sa façon de sauter du bus, à un tic de la paupière droite, à une façon de regarder les filles de 15 ans. Et puis à chaque fois, je me suis rappelé que Didier avait grandi en même temps que moi et devait maintenant avoir des cheveux gris, un ventre, trois petits-enfants, une sciatique, un cardiologue attitré, une pension alimentaire, un plan épargne-retraite et un double menton. Je me souviens de Maurice Bonfils, Bertrand Bonnecaze, Jean Candelier, Auguste Cliquet, Justin Potonnier, des noms arrachés à la va-vite le long du monument aux morts de la guerre de 14, le long du Père Lachaise. C'est pas vrai, je m'en souviens pas, mais sinon, qui se souviendra de ces mecs de 20 à 26 ans, 20, 30 ans, morts pour rien en 14, 17, 16, 15, 18.
Poi, 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 on part à Gaza, bombarder les terroristes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats. Poi, 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 le Hamas, c'est des barbares. Nous, on tue avec des bombes, pas des roquettes, ça a rien à voir. Poi, 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 on a visé l'hôpital. C'est par humanisme, pour que les blessés, plus jamais mal. Poi, 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 j'ai entendu du bruit. Désolé si j'ai tiré, j'ai cru que c'était une rêve partie. Poi, 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 on a coupé l'eau courante. On va vous doucher, on n'a pas le mot phosphore à l'essence. Poi, 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 vous êtes dans des tunnels. On va les gazer et sceller les portes à la truelle. Poi, 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 nous on fait pas d'otage. À part 2 millions à ciel ouvert derrière du haut voltage. Poi, 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 mais vous pouvez prendre la fuite. Promis, vous reviendrez en même temps que les réfugiés de 48. Poi, 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 on a détruit vos maisons. On en reconstruira des mieux quand s'y installeront nos colons. Poi, 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 on était là il y a 2000 ans. T'as qu'à retourner en Espagne où vous étiez il y a 1000 ans. Poi, 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 Dieu est dans notre camp. La preuve, j'ai jamais vu un rabbin qui était musulman. Poi, 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 nous c'est pas pareil. On était terroristes, mais contre les Anglais, pas Israël. Poi, 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 eux c'était des colons. Ça n'a rien à voir, nous on est chez nous, on a raison. Poi, 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 le Hamas c'est fini. Jusqu'à ce que leurs enfants soient grands et de haine remplis. Poi, 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 critiquer Netanyahou. C'est antisémite, c'est anti-France, c'est pas bien du tout. Poi, 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 la paix maintenant et Free Palestine. C'est antisémite, djihadiste et islamo-fasciste. Poi, 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 votez LFI. C'est antisémite, pas une opinion mais un délit. Poi, 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 ballon d'or à Benzema. C'est antisémite, faut le donner. Et Adolev Aziza, poi poi poi, les chansons de Vaquette, c'est antisémite, hein. Poi poi poi, avoir été contre l'apartheid, c'est du racisme anti-blanc. Ah non, merde. Non, là, c'est pas pareil. poi, poi, poi. On part à Gaza bombarder les terroristes, les femmes, les enfants, les chiens, les chats. Poi, 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 le Hamas c'est des barbares. Nous on tue avec des bombes, pas des roquettes, ça a rien à voir.
Radio Libertaire 89,4 MHz, comme à chaque fois la petite chanson de Tristan Edernvaquet, docteur et science, vicomte de Gribeauval, prince du bon goût. Et en face de moi, va-t-il démarrer sa vieille guimbarde? Une vieille guimbarde, c'est, suivant le choix, une voiture ou un instrument qui a la taille d'une clé de voiture. À toi.
Bonjour, moi. Bonjour, et avant tout, auditeur, auditrice de Radio Libertaire, voilà, je finis par le dire. Eh bien, une très très bonne année, vraiment, avec tout ce que vous voulez, et puis tout le reste, ok? À nous deux, Callaghan.
À nous deux, bravo.
Donc, présente-toi, tu es chez toi.
Donc, je suis Christophe Delessard, je suis ébahi par ce générique exécuté en live, magnifique, superbe.
En direct.
En direct, pour vous, chères auditrices et chers auditeurs.
Voilà.
Donc, je suis Christophe Delessard, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. J'ai été invité pour vous parler de mon actualité théâtrale.
Et alors d'abord ce 19,5.
19,5, alors c'est 19,5, c'est pas 19,5, parce voilà. Que parfois on me dit, bon c'est la note que vous avez eue à tel examen. Non,
c'est
19,5. Alors pourquoi 19,5?
Voilà
la question, voilà la grande question.
Exact.
Et 19,5, c'est le 19e en fait, ce spectacle est une prosopopée, je joue le 19e siècle.
Voilà.
Je n'avais plus de rôle, j'ai j'ai les chevilles qui ont profondément enflé ces derniers temps. J'avais plus de rôle à ma hauteur, vous voyez. Et il me fallait jouer le siècle. Non, je plaisante. Donc, l'idée était d'interpréter ce siècle et de montrer, de faire réentendre des textes du 19e, mais de tout type d'auteurs et d'autrices sur différents sujets. Et le point 5, voilà le point 5.
D'accord.
Quels sont ces sujets? Le point 5, en fait, c'est le 19e siècle en 5 thèmes. L'amour. Parce que l'amour, c'est ce qui nous fait vivre, ce qui nous meut, ce qui nous émeut. L'amour, la mort, c'est ce qui nous arrête de faire vivre, ce qui arrête de nous faire vivre. Les combattantes, donc qui est le chapitre sur les féministes du 19e siècle, évidemment. Les révoltes, les différents combats, et ça va vous plaire forcément ici.
Oui.
Et puis la nature, on verra que ces 5 thèmes... Donc, derrière ces 5 thèmes, j'ai fait une sélection avec mon amie Mylène Alix. On a fait une sélection de bons textes, de textes qui nous plaisaient, des textes de différents types, de la poésie, des alexandrins parfois, des extraits de romans. Il y a un extrait de Madame Bovary, de Flaubert. Donc, l'idée était de faire entendre ces textes sous un nouvel angle. Voilà un petit peu. Donc 19,5, le 19e, 5
actes. 5 actes, d'accord. Bon, ben Nico, annonce la couleur.
Je nous entraîne, moi si on me dit 19e siècle et un peu de propos révolutionnaires, je nous entraîne quand même vers la commune.
Ah ben voilà.
Sans doute mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir endettant plus facile, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versaillais infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit avec toi, je vais aux barricades, la place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front, sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères, malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre, il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître, la commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs.
Il a fallu que je recalcule quand même dans ma tête, 1870, c'est bien le 19e siècle, effectivement. Mais quand commence
bien,
le 19e
c'est bien,
siècle
bravo, c'est bien le 19e siècle. Et la commune est présente dans le spectacle puisqu'il y a un texte de Louise Michel qui s'appelle Les Agneaux et qui est une... un extrait des mémoires de Louise Michel où elle parle de la façon dont on élève les filles et comment on les entraîne dans une certaine niaiserie à être, je dirais, vraiment dans une situation très, très basse, très, pour pouvoir permettre à l'homme de les supplanter, quoi. Donc c'est un très très beau texte qui fait sourire, qui est très agréable. Le texte commence par « Jamais je n'ai compris qu'il y eut un sexe pour lequel on chercha à atrophier l'intelligence ». Voilà, j'adore démarrer ce texte et il est très, généralement très très écouté. On n'est pas habitué à entendre des textes de Louise Michel.
Et alors comment tu as eu l'idée de cette chose,
le 19e, je crois que ça remonte très loin, à mes années de lycée.
Ah oui, d'accord.
Et j'ai découvert le 19e siècle vraiment par une prof de français.
D'accord.
Et à l'époque, c'est vraiment, j'avais retenu que le 19e siècle, c'était le siècle du romantisme, hein, c'est le rouge, le noir, même si Stendhal n'est pas dans la pièce, c'est vraiment ça. Germinal, on est vraiment dans cet esprit-là. Germinal est présent dans le spectacle aussi. Et ce siècle est juste magnifique, quoi. Ce siècle est magnifique. Et puis après, il y avait des coups de cœur. Alors, j'ai un coup de cœur. Mon spectacle précédent était Valjean. Valjean, c'était une adaptation des Misérables. J'ai toujours eu un faible énorme pour Hugo, et là, c'était aussi l'envie de compléter un petit peu, de montrer que dans le siècle, même si Hugo l'avait traversé de part en part, c'était aussi montrer qu'il y avait d'autres choses à entendre et à découvrir dans ce siècle. Voilà. Avec des textes qui font écho. J'aime beaucoup, tu as entendu la mort du loup de Vigny, ce texte, je l'adore.
Non, vraiment, c'est magnifique, c'est une ambiance. Avec ma conjointe et moi-même, nous avons énormément aimé. Et on s'est dit, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt?
Oui. Et, alors, je suis ravi, moi, que ça n'ait pas été fait plus tôt. Ça me permet d'être... Alors, ce qui est assez, assez sympathique, c'est que parfois j'ai aussi des spectateurs à la fin qui me demandent alors quand 18.3 ou 16.4, pourquoi pas, hein.
Ben oui.
L'idée elle est pas brevetée encore. Donc, si jamais il y a des artistes qui m'écoutent, on va essayer de la protéger rapidement, peut-être à la sortie du studio.
Voilà.
À la fin du direct. Et non, voilà, c'était une façon pour moi de traverser un peu le siècle et de le faire entendre différemment.
D'accord. Alors peut-être un petit acte pour commencer.
Par quoi on pourrait commencer? On pourrait commencer par peut-être. Et si on commençait un peu par La Mort du Loup?
Voilà,
par exemple. La Mort du Loup. Je vais vous remettre dans le contexte. Hein. Uh-huh. Le noir se fait dans la pièce. On entend un petit peu au loin les chouettes, le vent et les nuages couraient sur la lune enflammée. Comme sur l'incendie, on voit fuir la fumée. Et les bois étaient noirs jusque à l'horizon. Nous marchions sans parler, dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes, nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine, et le pas suspendu, ni le bois ni la plaine, ne poussait un soupir dans les airs seulement. La girouette en deuil criait au firmament, car le vent élevé bien au-dessus des terres n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires, et les chênes d'en bas contre les rocs penchés sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. Rien ne bruissait donc, lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs qui s'était mis en quête a déclaré tout bas que ces marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de deux grands loups cerviers et de deux louveteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux, et cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, nous allions pas à pas, en écartant les branches. Trois s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, j'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient, et je vois au-delà quatre formes légères qui dansaient sous la lune, au milieu des bruyères, comme font chaque jour à grand bruit sous nos yeux quand le maître revient, les lévriers joyeux.
Bravo, super! Alors, t'as aimé? Vas-y, à toi.
Ah ben, moi je suis reparti sur le Père Hugo.
le Père Hugo.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits sachant rire et battre, mangeant comme quatre, puffant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme, sous son gros bonnet. Nous vivons en somme, on est honnête homme, on n'est pas mouchard. On va le dimanche avec Lise ou Blanche dîner chez Richard. Nous vivons sans gîte, goulûment et vite, comme le moineau, haussant nos caprices jusqu'aux cantatrices de chez Bobino. La vie est diverse, nous bravons l'averse qui mouille nos peaux. Toujours en ribote, ayant peu de bottes et point de chapeau, nous avons l'ivresse, l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables, nous sommes des diables. Nous sommes des dieux.
Oui, Victor Hugo transformé en blues par Colette Magny. Et c'est vrai que Victor Hugo traverse le 19e siècle puisqu'il est né. Ce siècle avait 2 ans. Rome remplaçait Sparte. Napoléon déjà pointé sous Bonaparte.
Oui. Quel grand homme. Alors, merci d'avoir recité ces vers. Pour moi, ce siècle n'avait pas 2 ans puisque le siècle, alors là, moi, dans le côté puriste, le siècle se termine vraiment en 1800. Donc, le siècle suivant commence en 1801.
D'accord.
Donc, ce siècle n'aurait vraiment eu qu'un an. Mais bon, on peut pas en vouloir à Hugo de ne pas avoir été, en plus de poète, romancier, militant, aussi mathématicien, quoi.
Voilà. Ben oui. Voilà.
Ah, mais Hugo, magnifique. Il y a plusieurs textes de Victor Hugo dans la pièce. Et il y en a un, je ne résiste pas à l'idée de vous donner quelques bribes. C'est La mort de Gavroche. Qui est un moment
bien.
Fabuleux dans Les Misérables. Moment fabuleux. Parce que vous savez, tout à coup, on aperçut quelqu'un dehors, dans la rue, sous les balles. Gavroche avait pris un panier à bouteilles dans le cabaret et était paisiblement occupé à vider les gibernes pleines de cartouches. Des gardes nationaux tués. On lui cria de rentrer. « À tout à l'heure, fit Gavroche. » C'est un bond, il progressa encore. La fumée était dans la rue comme un brouillard. Elle montait lentement et se renouvelait sans cesse. Cet obscurcissement fut utile à Gavroche, qui put s'avancer assez loin sans être vu. Il dévalisa les 7 ou 8 premières gibernes sans grand danger. Il rampait à plat ventre, galopait à 4 pattes, prenait son panier aux dents, glissait, serpentait, ondulait, allait d'un mort à l'autre et vidait la cartouchière comme un singe ouvre une noix. De la barricade, dont il était encore assez près, on osait lui crier de revenir, de peur d'attirer l'attention sur lui. À force d'aller de l'avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade devenait transparent, si bien que les tirailleurs de la ligne, rangés et à l'affût derrière leur levée de pavés, et les tirailleurs de banlieue qui s'étaient massés à l'angle de la rue, se montrèrent soudain quelque chose qui remuait dans la fumée. Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un soldat gisant près d'une borne, une balle frappa le cadavre. Fichtre, fit Gavroche. Et pour la suite, il faudra venir un peu à l'essayon quand même, vous voyez.
très bien, super. Et donc, tu as appris tout ça par cœur, sans problème?
Sans problème, non, je ne dirais pas sans problème. Je ne dirais pas sans problème parce que merci pour cette question, il y a un truc dont... Vous savez, les textes, c'est terrible parce qu'on se rend compte que les textes, voilà, tu l'as vu, on le sait tous les deux, on a plus 20 ans, on n'a plus tout à fait 20 ans. Et les textes ne rentrent plus aussi facilement qu'ils ne rentraient
à un certain âge.
Voilà, on ne va pas préciser, on ne va pas aller plus loin dans la précision. Donc ça nécessite un certain travail. Mais je suis assez fier aujourd'hui d'un truc, c'est que je termine 19.5 à l'Essaillon le 28 février. Et à partir du 25 mars, je reprends une autre pièce qui est Rembrandt sous l'escalier. Donc il y a un autre texte. Et sur le mois de février, je vais également jouer une autre pièce qui s'appelle Valjean, tout court, qui est une sorte, on dirait un spin-off, mais une approche des Misérables complètement tournée sous le prisme de Valjean. Et donc les 3 pièces vont être jouées sur le même mois, vous voyez. Donc au niveau mémoire, ça nécessite de bosser un petit peu. On va se raconter une histoire, il faut bosser un petit peu, quoi.
Très bien, pas d'alcool en tout cas.
Non, pas d'alcool.
très bien. Bon, un peu de musique. De
à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
Eh oui, encore le père Hugo. L'avantage qu'il y a quand même avec le 19e siècle, c'est que c'est une langue effectivement riche, etc. Mais c'est pas comme dans le Lagarre et Micheton du 14e siècle ou autre, on a du mal à comprendre parce que le vieux François de nos Rabelais et autres, c'est bien, mais il faut s'adapter. Là, la langue est riche et directement accessible.
Absolument.
Oui, c'est pour ça que la version un 15.4 ou un 16.3, ce sera un peu plus tardive. Il faut que les gens s'habituent quand même à retrouver un peu la langue française depuis son origine. Mmh. C'est vrai que le 19e est beaucoup plus accessible, beaucoup plus proche. Et ce qui est étonnant, même, je dirais, sur le 19e, c'est qu'il y a des textes qui sont d'une incroyable actualité.
Actualité, oui.
Il y a des textes sur la nature. Je dis un texte sur la nature qui est une lettre de George Sand, où, savez-vous que George Sand protège la forêt de Fontainebleau d'une exploitation totalement industrielle. C'est-à-dire que sans George Sand, probablement que la forêt de Fontainebleau, aujourd'hui, ne serait réduite qu'à ses rochers, quoi. Il n'y aurait plus de forêt. En tant que tel. Et c'est incroyable de voir, elle explique, elle raconte que le progrès industriel détruit les plantes. On est ce qu'il faut savoir aussi ce qu'on a tous en tête pour le 19e siècle, ce siècle de la révolution industrielle, c'est aussi le siècle où on commence, n'ayons pas peur des mots, après tout, lâchons-nous un peu, on commence à piller les ressources du sol, quoi, les ressources de la nature. On creuse, on va sous la terre, on va chercher le charbon. Un peu plus tard, on ira chercher
de l'or.
On ira chercher du pétrole. Enfin, ça c'est le siècle suivant. Mais l'idée, à partir de ce moment-là, finalement, on commence à utiliser, à nous servir largement. Alors, à travers toutes les époques, on a toujours utilisé la nature, hein, mais là, il y a vraiment une sorte d'exponentiel, un accroissement fabuleux de l'exploitation des ressources de la nature, quoi. Mmh. Et ça, George Sand le dit très bien, et donc le texte est assez surprenant et complètement d'actualité.
Ouais.
George Sand commence par un vers de Racine. Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts. Qui de vous, sans être dévoré de passions tragiques, n'a souffert, n'a soupiré telle la Phèdre de Racine, après l'ombre et le silence des bois. Ce vers, isolé de toute circonstance particulière, peut être vu comme un cri de l'âme qui aspire à la liberté, au repos, ou plutôt au recueillement profond qu'on respire sous les grands arbres. Malheureusement, ces monuments de la nature ont tendance à disparaître aujourd'hui devant les besoins de la civilisation et les exigences de l'industrie. Vous voyez, ça c'est écrit en 1860, dans les années 1860. Incroyable. C'est fabuleux.
Ouais.
C'est fabuleux. Aujourd'hui, on dirait, voilà, on écoute ça, on se rend compte aujourd'hui à quel point ces mots font écho. Alors, puisque je suis un peu dans le parallèle entre le 19e et notre siècle, évidemment, on en parlera après, je suis un peu parti sur la nature, mais on en parlera après, mais sur les révoltes, sur la misère. Le discours, pour en revenir à Hugo, le lundi 9 juillet 1849, Hugo produit un discours à l'Assemblée sur la misère pour réclamer l'abolition de la misère. Et en fait, vous écoutez ce texte, rien n'a bougé, quoi. On ne parle plus, à un moment, il cite les charniers de Montfaucon. Les charniers de Montfaucon n'existent plus, certes, mais il explique qu'une femme et ses enfants vont chercher leur nourriture dans ces charniers de Montfaucon. Aujourd'hui, on voit aussi, on n'a pas besoin d'aller à Montfaucon pour voir des gens dans la rue aller chercher de quoi se nourrir dans les poubelles ou dans des déchets.
On les voit sur les trottoirs parisiens,
il suffit d'aller. Rien que l'accès, je vois, les Saillons et dans ce quartier que j'adore du Marais, vous traversez le Marais, c'est incroyable. En fait, cette misère est omniprésente. Aujourd'hui, on peut pas se balader dans les rues de Paris sans se rendre compte à quel point il y a un fossé qui s'est creusé.
Y a-t-il un État quelque part?
On pourrait se poser la question. Mmh. On pourrait se poser la question. Sans vous avoir envie qu'on se la pose.
Voilà. Avant du coup.
La noce éternelle, la table est dans la tonnelle, mort ivre, il tombe dessous. Et c'est là sa réussite, il va quand il ressuscite au paradis pour six sous. Rire et boire, et c'est la vie, on régale, on se convie sur le vieux comptoir de plomb. Toujours fête, et le dimanche tient le lundi par la manche. Le dimanche a le bras long, le bro lui sous les charmilles. Nous tendrons un verre aux filles et nous les embrasserons. Être heureux, c'est très facile, la Grèce avait le Pouessil, la France a les Porcherons. Là on se couche aux carrières, on se peuple des barrières, on se peuple des faubourgs. Fou de gaieté puérile, donnant quelques fleurs stériles, pourtant de profond labour. Il dort, il chante, il s'irrite, Rome dit quel sybarite, Sybaris dit quel romain. À toute minute il change, et ce serait un archange, si ce n'était qu'un gamin. L'Athénien est son père, par moments on désespère, il quitte et reprend son bas. Devinez cette charade, il achève en mascarade ce qu'il commence en combat. Il n'a plus rien dans les veines, il emploie ou dans ce veine les grands mois juillet à août. Quel bâtard ou quel maroufle, mais un vent inconnu souffle, il se lève tout à coup, tout ruisselant d'espérance, disant je m'appelle France, splendide ivre de péril, bon joyeux l'âme éveillée, comme une abeille mouillée de rosée au mois d'avril. Il se lève formidable, abordant l'inabordable, prenant dans ses poings le feu, sans l'honneur solennel, ayant l'homme sous son aile, et dans sa prunelle Dieu. Fier, il mord dans le feu rouge, il change en Éden le bouge, enfante, chef et soldat, et se dressant dans sa gloire, finit sa chanson à boire, par ce cri Léonidas, qu'un autre lui jette un blâme. Il est le peuple et la flamme, c'est l'enfant insoucieux qui soudain s'allume et brille. Il descend de la courtille, mais il monte dans les cieux. Il fait la noce éternelle, la table est dans la tonnelle, mort ivre, il tombe dessous. Et c'est là sa réussite, il va quand il ressuscite au paradis pour six sous.
Extrait d'un album que Serge Kerval avait consacré à Victor Hugo, avec notamment la fiancée du timbalier, mais là c'est le Parisien des Faubourgs. J'aurais quand même une question, moi, sur Victor Hugo. Il y en a eu combien de Victor Hugo? Parce que pour écrire tout ce qu'il a écrit, le paquet de romans d'une épaisseur incroyable, les poèmes de toutes sortes, les textes pamphlétaires, il y en a eu plusieurs, oui, des Hugo.
C'est vrai que c'est fabuleux, c'est un homme extraordinaire. J'ai envie de rebondir juste, parce que là si on part sur Victor Hugo, on va faire vraiment toute l'émission sur cet homme qui est juste incroyable. Moi, je vais rendre grâce, si Victor m'écoute là de son Panthéon, si je vais lui faire probablement un petit choc, parce que je vais dire merci à Napoléon III. Merci à Napoléon III qui est l'ennemi juré de Victor Hugo, hein.
Le petit
Napoléon le petit. Et je vais lui dire merci parce que finalement, au moment où Victor Hugo en 1851, après ce putsch, hein, ce coup d'état de Napoléon III, quitte la France d'abord pour la Belgique et ensuite pour Jersey et Guernesey. Finalement, Napoléon III rend un service extraordinaire à Hugo parce que Hugo avait une tendance à plutôt partir sur une existence un peu de salon et une existence un peu purement politique. Quand il arrive à Guernesey, en fait, il passe son temps à écrire, à marcher, à écrire. Et donc cette œuvre est décuplée. Les Misérables qui sont nés dans son esprit aux alentours de 1832. Enfin, le contrat avec son éditeur est signé en 32. Les Misérables sortent en 62, donc 30 ans plus tard. Et les Misérables sont évidemment, la majeure partie des Misérables est écrite à Guernesey. Et donc le Napoléon III a rendu sur ce sujet-là un fier service à Hugo. Mais oui, c'est un monument de travail. C'est un type qui est extraordinaire parce qu'il y a un point qui est aussi phénoménal sur Hugo, c'est qu'on connaît moins. Hugo dessine. Hugo a à son actif plus de 4000 dessins. Et les dessins qui sont des dessins qui sont des petits qui se il y a quelques petits chefs-d'œuvre hein, sur les dessins. Hugo se balade un peu partout. C'est un curieux. Il est curieux de tout. C'est un homme qui dessine, qui prend des notes, qui parcourt la France, qui parcourt les pays limitrophes, qui passe du temps au Luxembourg, en Belgique, qui passe énormément de temps en Allemagne, en Rhénanie. C'est un type qui est d'une curiosité extraordinaire, d'une capacité de travail folle, décuplé de surcroît quand il se retrouve en exil et finalement là-haut, je ne sais pas si vous avez eu, si un jour vous avez l'occasion d'aller à Guernesey et que vous visitez sa maison de Haute-Villaos avec ce magnifique bureau qui donne sur la Manche, hein, qui est un, et là où il écrit, enfin vous voyez, cet homme est traversé, habité par la créativité même, quoi, que ce soit par les mots, par le dessin, enfin par la plume. Il essaye aussi, il fait sa maison à Guernesey, il décore. Alors c'est un style particulier, hein, mais il va faire mettre de la faïence sur les murs. C'est un artiste complet.
Tu sais, à propos de Hugo, très souvent, quand on me demande comment je m'appelle, alors je dis Victor Hugo a déjà parlé de moi dans Les Misérables. Ah bon? Et je cite donc Victor Hugo qui dit: Mohamed est mon nom, je suis l'un des plus braves guerriers de ma tribu, et quand je monte à cheval, je fais trembler la terre sous les sabots luisants de mon coursier.
Magnifique.
Victor Hugo. Voilà. À toi, Nico.
Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres. Je marchais à pas distrait. Je parlais des fleurs, des arbres. Son œil semblait dire après. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles et Rose les rossignols. Moi 16 ans et l'air morose. Elle vint, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient rose et les merles me sifflaient. Rose droite sur ses hanches leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait fraîche et creuse sur les mousses de velours. Et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit n'y pensons plus, dit-elle. Soit n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours.
Radio Libertaire 89,4 MHz, toujours Victor Hugo, je ne songeais pas à Rose par Julos Bocarn. L'avantage quand même avec Victor Hugo, remarque, c'est que on fait du saut de mouton, puisqu'il est du 19e siècle, mais il passe son temps à faire référence à des auteurs précédents. Il y a des fois quand même, je craque un peu en lisant Les Misérables ou autre, quand il se lance dans un truc où il te fait des comparaisons avec des personnages. Si tu veux vraiment, faut que tu ailles sur Wikipédia chercher qui était ce un tel auquel...
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je me souviens, dans Les Mêmes Misérables, il y a 40 pages sur la bataille de Waterloo. Je ne sais pas si tu les vois aussi.
Ah, c'est un souvenir,
et...
oui.
C'est assez étonnant parce que, bon, il faut les... Mais c'est bien, il y a ce côté... Mais Les Misérables, c'est ça. Il y a des moments où c'est un roman, et il y a des moments où il y a une partie un peu essai, il y a une partie un peu historien. Alors, sachant que j'ai discuté avec des vrais spécialistes de la... des batailles napoléoniennes, a priori sa version du Waterloo est un petit peu différente de la réalité. Bon, n'empêche que voilà, il y a des images qui sont quand même assez fortes. Je sais pas si tu as noté, mais ce souvenir des cavaliers qui s'empilent en fait et qui s'empalent les uns sur les autres dans le fossé à Waterloo. Bon, voilà, les images sont là, c'est Hugo. Et bien sûr, et sur la mythologie, sur toute la partie mythologie. Et notamment aussi le côté saxon, hein, outre-Rhin, puisqu'il va chercher aussi des ressorts dans la mythologie allemande. Et oui, il faut parfois le latin aussi. Le latin, on travaille énormément le latin, mais c'est mais ce qui est fou, c'est que ce Hugo gamin était magnifiquement doué en latin, quoi, en latin, en grec.
C'est un lettré de naissance.
Un lettré de naissance, c'est vraiment un génie. Je crois qu'on peut peut dire que c'est vraiment un grand homme. C'est un homme incroyable.
Mais alors, l'avantage,
J'ai envie de parler. Alors c'est marrant parce que très longtemps, je n'ai vécu ce 19e siècle que pour Hugo. Et puis un jour, quand j'ai commencé à retravailler, à avoir cette idée de 19.5, j'ai dit voilà, il faut quand même aussi que je relise un petit peu les autres auteurs du 19e, évidemment. Et j'avais un petit problème avec Zola. J'avais un petit problème avec Zola parce que Zola n'a pas toujours été tendre avec Hugo. Alors, bon, je pense qu'Hugo n'a pas toujours été tendre non plus avec Zola, mais voilà, évidemment, comme j'ai le droit d'être totalement subjectif, hein, de ne pas être, pas être du tout objectif, sinon je serais pas artiste. Hein, et puis après, avec le temps, on se dit, bon non, il faut quand même aussi appréhender et voir la réalité en face. Vous avez des choses dans les textes de Zola, il y a des choses magnifiques. Il y a un extrait dans la pièce, dans 19.5, il y a un extrait de Germinal, et où on a une description. Alors c'est une scène une scène assez culte. On y va, je peux, j'ai le temps, j'y vais. Alors, et les femmes parurent. Donc on est dans Germinal. Ah. Germinal, on est au moment de la révolte. On est vous voyez cette file de mineurs qui sont en révolte. Donc les femmes parurent, près d'un millier de femmes, aux cheveux épars, dépeignées par la course, aux guenilles montrant la peau nue, des nudités de femelles lasses d'enfanter des mœurs de faim. Quelques-unes d'entre elles tenaient leur petit entre les bras, le soulevaient, l'agitaient, ainsi qu'un drapeau de deuil et de vengeance. D'autres, plus jeunes, aux gorges gonflées de guerrières, brandissaient des bâtons, tandis que les vieilles, affreuses, hurlaient si fort que les cordes de leurs coups décharnés semblaient se rompre. Les hommes déboulèrent ensuite. 2000 furieux, des galibots, des haveurs, des raccommodeurs, une masse compacte, serrée, confondue, serrée à un tel point qu'on ne distinguait ni les culottes déteintes, ni les tricots de laine en loques, effacés dans la même uniformité terreuse. Les yeux brûlés, les trous des bouches noires chantaient la Marseillaise dont les strophes se perdaient en un mugissement confus, accompagné par le claquement des sabots sur la terre dure. Au milieu, des têtes. Parmi le hérissement des barres de fer, une hache parut, portée tout au droit. Et cette hache unique, qui était comme l'étendard de la bande, avait, dans le ciel clair, le profil aigu d'un couperet de guillotine. Quel visage atroce ! S'écria Madame Hennebeau. Négrel, dit entre ses dents, le diable m'emporte, j'en reconnais un seul. D'où sortent-ils donc, ces bandits-là ? Et en effet, la faim, la colère, ces deux mois de souffrance, cette débandade enragée avait allongé en mâchoire de fauve les faces placides des houilleurs de Montsou. À ce moment, le soleil se couchait, les derniers rayons d'un pourpre sombre ensanglantaient la plaine. Alors la route sembla charrier du sang. Les femmes et les hommes continuaient à galoper, saignant comme des bouchers en pleine tuerie. Voilà, extrait des Misérables.
Magnifique.
Interprété et avec une... On peut, pour mettre un petit peu plus d'images dans la tête de nos auditrices et de nos auditeurs, on est dans une atmosphère sombre, je suis avec une lampe torche.
Alors Zola et Hugo, ils avaient un...
Alors Zola et Hugo, alors c'est assez, la relation est assez curieuse, quoi. Ouais. Parce qu'il y avait une forme de... Il y avait évidemment un peu... Il y avait du respect de part et d'autre. Mais il y avait un peu une sorte de jeu, une sorte de joute. Et il y a un moment où Zola... Enfin, moi, ce que ma perception, c'est que Zola regardait un petit peu. Zola naît en 40, donc il y a 38 ans d'écart. Mmh. Il y a quand même presque deux générations entre les D'accord. deux. Donc Zola regardait un peu Hugo de manière... J'ai eu le sentiment que Zola regardait un peu Hugo de manière condescendante. C'était un peu l'image du vieux, vous voyez, c'est un peu dans... Au cinéma, pour les jeunes acteurs, voir un gabin, voilà, ça va, c'était l'ancêtre, c'est ça, c'est la génération d'avant, donc il fallait passer à autre chose. Mmh. Bah, je crois qu'il y avait quand même finalement beaucoup d'affection entre les deux.
Yes.
Pâle ou vermeille, brune ou blonde, bébé mignon, dans les larmes, ça vient au monde, cher à Guignon. Ébouriffé, suçant son pouce, jamais lavé, comme un vrai champignon, ça pousse, cher à pavé. À 15 ans, ça rendra l'usine sans éventail. Du matin au soir, sa turbine, chère à travail. Fleur des fortifs, ça s'étiole quand ses girons. Dans un guet-apens, ça se viole, cher à patron. Jusque dans la moelle pourrie, rien sous la dent. Alors ça rentre en brasserie, cher à client. Ça tombe encore de chute en chute, honteuse un soir. Pour un franc, ça fait la culbute, cher à trottoir. Ça vieillit et plus bas ça glisse un beau matin. Ça va s'inscrire à la police, cher à Roussin. Ou bien sans carte, ça travaille dans sa maison. Alors ça se fout sur la paille, cher à prison. D'un mal souffrant le supplice, vieux et tremblant. Ça va geindre dans un hospice, cher à savant. Enfin, ayant vidé la coupe, bu tout le fiel. Quand c'est crevé, ça se découpe, cher à scalpel. Patron, t'as d'héliogabal, d'effroi saisi. Quand vous tomberez sous nos balles, cher à fusil. Pour que chaque chien sur votre rogne pisse à l'écart, nous leur laisserons vos charognes, cher à Macquart.
Jules Jouy, le poète chourineur, interprété ici par Michel Bernard. Jules Jouy, qui peut entrer dans ton spectacle, puisqu'il s'est démerdé pour mourir à 40 ans et quelques en 1897, donc ça va.
Très bien, j'ai bien joué. 1897, qui est, c'est une date que je cite dans le spectacle, puisque c'est la date de la première de Cyrano de Bergerac au théâtre de la Porte-Saint-Martin. Voilà. J'en parlerai tout à l'heure, parce qu'en fait, on termine le spectacle sur l'amour, mais je n'en dis pas plus sur l'amour, parce que c'est quand même ce qui nous meut, je l'ai dit déjà. Je voulais revenir un peu sur les combattantes. On a parlé de Louise Michel, on a parlé de... Les féministes ont leur place dans 19.5, mais on a appelé ça, je l'ai appelé ça, les combattantes. Et il y a une femme dont je voulais parler, qui est une femme assez exceptionnelle, qui est Jeanne de Roing. Jeanne de Roing, je ne sais pas si tu connais Jeanne de Roing. Jeanne de Roing, c'est une personne qui se présente aux élections législatives de 1849.
Wow.
Alors elle se dit finalement, elle dit à ses camarades socialistes, elle dit bah, écoutez, vous revendiquez les principes de liberté, d'égalité et de fraternité, pourquoi finalement dans cette égalité, il n'y aurait pas aussi des femmes qui iraient, qui deviendraient pères de France hein,
à l'époque. C'est la datie de l'époque.
Voilà, hashtag ministère de la culture si vous nous écoutez. Voilà, donc elle vient, alors c'est assez, je trouve l'idée assez géniale parce qu'elle vient se présenter à des élections auxquelles elle ne peut pas voter. Hein, puisque les femmes, le droit de vote n'existe pas encore. Oui. Mais voilà, donc il y a un très beau texte. Alors il y a un texte qui est une tribune parue dans un journal. Alors j'ai plus le titre du journal à cet instant parce que tu sais ce que c'est avec notre âge. Il y a des pans de mémoire quand même qui flanchent. Hein, comme ma mémoire est quand même assez axée sur les textes que j'apprends. Donc j'ai plus le nom du journal, mais j'ai mis ce texte. J'interprète ce texte. Je trouvais qu'il fallait, il fallait lui donner un écho. Et il est joué depuis une tribune. Voilà. Ça fait partie des textes qui sont lus dans le spectacle. Donc ce texte est... Mais il est très intéressant pour cette... Parce qu'il met en lumière les incohérences, finalement, les incohérences de ces principes de liberté, d'égalité. Voilà, si vous avez vraiment ce principe en tête, laissez-nous accéder au pouvoir. Nous, vos lois sont parfois inadaptées. Laissez les femmes prendre aussi une part de ce combat législatif de produire des lois qui finalement vont intéresser leurs enfants, puisque sans ces femmes il n'y a pas de création, donc autant ne pas imaginer de loi, puisque
sans les mères il n'y a pas de famille
et voilà. Donc c'est Jeanne de Roing. Jeanne de Roing, donc fait partie des... Et puis il y a une autre féministe aussi dont on parle dans le spectacle, et qui, alors là, moi c'était vraiment une découverte, je pense que vous qui nous écoutez le connaissez probablement, c'est Alice Guy. Alice Guy, donc, qui est, elle, née en 1873, donc elle est encore bien dans ce 19e siècle. Elle travaille avec Léon Gaumont. Et à l'époque, le cinéma est vraiment là pour représenter le mouvement. Quoi. Et elle, c'est la première, ce qui est assez génial, parce que quand on voit aujourd'hui l'industrie cinématographique, c'est la première à imaginer, transformer, utiliser ce support des films, on appelle déjà ça des films, mais pour raconter des histoires. Donc vraiment, aujourd'hui, Hollywood n'existerait pas sans Alice Guy. Alors probablement qu'il y aurait eu une autre Alice Guy peu plus tard, ou un autre Alexis Guy, mais c'est bien elle qui est la pionnière dans ce domaine. Donc il nous paraissait aussi important, ah oui, il faut que je cite aussi une certaine personne, parce qu'il nous paraissait aussi important avec mon amie Johanna Boyer d'Ilolo qui fait la mise en scène de ce spectacle, hein, et la création lumière aussi, on travaille.
Elle aurait pu venir,
les choses sont décidées un petit peu rapidement, et elle est sur un autre projet en ce moment, et Johanna, donc avec elle, on a imaginé réhabiliter, c'est un grand mot, ça sera un peu prétentieux de ma part, mais citer ce personnage qui me paraît faire du sens aujourd'hui. À une époque, vous savez, on a eu en ce moment, on a eu une discussion, on a eu des mots à propos de Marie Curie, là, la reconnaissance de l'apport de Marie Curie à la science. Aujourd'hui, il me paraît primordial que tous ces travaux, ces œuvres, qui sont le résultat de la créativité des femmes, hein, soient bien reconnues en tant que telles et acceptée en tant que telle et révélée en tant que telle dans la... Vous voyez, Marie Curie et Alice Guy sont des personnages qui, avec des dimensions différentes, hein, mm-hmm. bien sûr, mais qui font partie de notre patrimoine. Je ne vais pas forcément utiliser le mot matrimoine, mais font partie, sont des personnes qui ont aidé cette société, cette civilisation à grandir. Quoi. Mm-hmm. Donc il faut en parler et on en parle. Et ça, c'est une idée de ma metteur en scène, donc Johanna, que je salue. Mm-hmm. Johanna Boyer-Dilolo, qui est une personne avec un talent immense et qui m'accompagne depuis maintenant une petite dizaine d'années sur mes projets.
D'accord. Merci.
Voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous. Amis chantons, amis dansons, la danse des bombes garde à vous. Voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous. Amis chantons.
La grandeur de la poudre qui se mêle à l'encens, ma voix frappant la voûte et l'orgue qui perce ses dents.
La danse des bombes garde à vous. Voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous. Amis chantons, amis dansons, la danse des bombes garde à vous. Voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons.
La nuit est écarlate, trempez y vos drapeaux. Aux enfants de Montmartre, la victoire ou le tombeau. Aux enfants de Montmartre, la victoire ou le tombeau.
Des bombes garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons, amis dansons, la danse des bombes garde à vous, voici les lions, le tonnerre de la bataille gronde sur nous, amis chantons, oui mon cœur je le jette à la révolution.
Interprété par Michel Bernard, là encore, La danse des bombes, un texte dû à une institutrice de Nouvelle-Calédonie. J'applaudis l'algorithme de YouTube qui dit que l'auteur, c'est Michel Louise. C'est-à-dire que pour l'algorithme de YouTube, finalement, Louise Michel, ça doit bien être Monsieur Michel Louise.
Forcément, ça pouvait pas être une femme. Louise Michel, qui avait un surnom, vous connaissez le surnom Bravo Nicolas pour cette programmation musicale complètement en direct, elle également.
Et en rapport direct,
évidemment. Connais-tu le surnom de Louise Michel? Louise Michel avait un surnom qui était emprunté au Misérable de Victor Hugo, justement. Enjolras, qui est dans Les Misérables. Enjolras est un révolutionnaire. C'est le révolutionnaire qui tombe à la fameuse barricade en 1832, où Javert arrête Valjean, où Gavroche tombe d'ailleurs aussi. Donc c'est Enjolras. Et il y a une correspondance étonnante entre Louise Michel et Victor Hugo. Alors il y a eu certains historiens qui ont prétendu qu'Hugo avait eu une aventure avec Louise Michel. Je ne suis absolument pas convaincu. Cette femme a beaucoup compté. C'était un peu une fille pour Hugo. Je pense qu'il y avait une sorte d'esprit un peu filial. Voilà, je voulais parler, j'en profite aussi, oui, pour vous dire tout à l'heure, parce que donc je suis à l'Essaillon en ce moment, et j'aimerais avant, parce que j'aimerais qu'on, un peu plus tard dans l'émission, vers la fin de l'émission, on parle du dernier acte. Le dernier acte, c'est l'amour. Mais j'aimerais, l'amour, c'est quelque chose, il faut forcément des préliminaires sur l'amour. Et là, avant de parler d'amour, donc j'ai envie de parler du prochain spectacle que j'aurai le plaisir d'interpréter. Et cette fois-ci, plus seul à l'Essaillon, puisque je serai... Donc le spectacle s'appelle Rembrandt sous l'escalier. Il est joué tous les lundis et mardis à partir du 25 mars, pendant 3 mois, à 19h. C'est dans la grande salle de l'Essaillon. Donc Rembrandt sous l'escalier est une pièce de Barbara Lecomte. Et c'est... On va pas dire un biopic, parce qu'un biopic, si je dis un biopic, personne ne viendra. C'est pas un biopic, c'est une confrontation entre Rembrandt et son père, d'abord, puisque dans la première partie de la pièce, le père de Rembrandt est vivant, et ensuite c'est ce père devient un peu un fantôme et devient un petit peu la conscience de Rembrandt. Et donc on voit l'évolution de cet artiste fabuleux. Rembrandt est quelqu'un d'extrêmement libre, d'indépendant, qui n'a jamais fait de choix artistique pour répondre à une doctrine quelconque, pour être, contrairement à Rubens, Rubens c'est son aîné, mais Rubens travaille beaucoup pour la cour, pour différents princes, etc. Rembrandt ne fait pas ça. Rembrandt peint sa réalité à lui, et c'est un personnage extraordinaire. Et donc j'ai la chance d'interpréter Rembrandt. Je suis accompagné sur scène par Eric Belker, que vous voyez dans des petits... au départ, qui a une appétence cinéma prononcée. Eric est quelqu'un que j'apprécie énormément. On se donne la réplique et on est accompagné par une violoniste exceptionnelle qui s'appelle Consuelo Lepo et qui va créer cette musique, en live. Alors, il y a des morceaux de musique qui sont évidemment... naturellement interprétée, et puis après elle joue, elle nous répond également avec son violon. Donc en fait c'est un spectacle qui est assez remarquable parce que la lumière est travaillée par Johanna Boyer Di Lolo, dont j'ai parlé tout à l'heure. La mise en scène est signée de Elsa Saladin qui m'accompagne aussi depuis un certain temps, qui est quelqu'un qui a une générosité et un sens du contact avec les comédiennes et comédiens qui est extraordinaire. Donc, la lumière concourt à nous livrer des tableaux, des clairs-obscurs façon Rembrandt. Il y a cette lumière, il y a cette musique, il y a cette ambiance. Vraiment, si vous avez l'occasion, et le texte qui va avec, la plume de Barbara Lecomte est au départ, une historienne de l'art. Et qui a travaillé sur différents thèmes historiques et artistiques, qui a écrit notamment une pièce sur Rosa Bonheur également, qui a plutôt bien marché. Et voilà, donc texte très très chouette à entendre. On apprend beaucoup de choses sur Rembrandt. Ce qui me plaît bien, c'est que
un aperçu ?
Non, là il n'y a pas d'aperçu. Il n'y a pas d'aperçu.
D'accord.
Quand les gens sortent de la pièce, très souvent on entend, maintenant on a envie de retourner au Louvre pour voir les tableaux. Donc ça c'est signe que le travail a été plutôt bien accompli. Que ça fonctionne bien. Donc voilà, ça je voulais vous en parler.
Te souvient-il au fond du paradis de la gare d'Auteuil et des trains de jadis t'amenant chaque jour venu de la chapelle? Jadis déjà, combien pourtant je me rappelle. Cet Auteuil, et sous les arbres pleins d'une jante musique, notre entretien était souvent métaphysique. Oh, tes forts arguments, ta foi du charbonnier, non sans quelque tendance aussi franche à nier, mais si vite quittée au premier pas du doute, et puis nous rentrions plus que lent par la route un peu des écoliers, chez moi, chez nous. Plutôt, y déjeuner de rien, fumailler vite et tôt, et dépêcher longtemps une vague besogne. Mon pauvre enfant, ta voix dans le bois de Boulogne.
Le pauvre Lélian, c'était la deuxième moitié du 19e siècle, évidemment, mort 4 ans avant la fin du siècle, ou 5, puisque effectivement la fin de siècle, c'est de 1901. Paul Verlaine, interprété ici par Christine Sèvres, avec une musique de Léo Ferré derrière, c'est énorme.
C'est énorme, en effet, c'est énorme.
Oui, donc tu disais un extrait de...
Oui, je disais, en fait, ça m'a... Oui, je... Il n'y a pas de cette pièce, donc c'était un dialogue. On est deux sur scène, mais pourtant, et c'est conforté un peu par cette ambiance musicale là que je viens aussi d'entendre. On démarre la pièce. Je reviens sur Rembrandt, hein, Rembrandt sous l'escalier. Donc la pièce démarre. On a l'image d'un escalier en colimaçon. Et pour les amateurs d'art, en fait, l'histoire, la pièce s'appuie sur un petit tableau de Rembrandt qui s'appelle Le philosophe en méditation. Vous avez un philosophe qui est près d'une... Vous avez un vieux sage qui est près d'une fenêtre avec un escalier en colimaçon. Et c'est un peu toute cette histoire que va imaginer... C'est autour de ce portrait, de ce tableau, que Barbara Lecomte va imaginer l'histoire. Et je commence la pièce, vous voyez, donc il y a cet escalier, il y a une lumière qui donne sur cet escalier, il y a un peu de brume, et je descends, j'arrive sur scène, et je me souviens de mon père... assis près de la fenêtre dans notre maison de Leyde. Je me souviens de sa silhouette de vieux sage dans la pénombre de son antre, mon atelier, mon tout premier atelier, celui de mes 20 ans, était au grenier. Lorsque la lumière déclinait, lorsque je gâtais à coup sûr mes couleurs, alors je posais mon pinceau et je descendais l'escalier pour retrouver mon père. Il me semblait emprunter l'hélice intérieure d'un coquillage étrange, habité par un petit animal pensant, un être intellectuel. Mon père, Armen Van Rijn, vivait dans cette coquille méditative, retiré en lui-même, tel un philosophe. Je voyais le dernier éclat du rayon de soleil qui chauffait son corps et je ne savais plus très bien d'où venait cette substance lumineuse qui remplissait la pièce. N'était-ce pas lui qui la sécrétait ? Je le rejoignais sur ces terres incandescentes, les terres de mon père. Il me semble ne jamais les avoir quittées. Voilà, c'est le début de cette pièce qui est vraiment
très bien, très intéressant.
Un hommage au,
mais oui.
à l'homme méconnu et à son œuvre. Voilà, c'est signé Barbara Lecomte, donc à partir du 25 mars, toujours à l'Essaillon. Pour revenir... Peut-être pour revenir à 19.5 qui se joue jusqu'au 28 février à l'Essaillon, le mercredi à 19h. Donc cette pièce sera reprise.
L'Essaillon qui se trouve
L'Essaillon se trouve
Pierre-Aulard, c'est ça ?
Rue Pierre-Aulard. Alors la rue Pierre-Aulard, ça ne parle pas systématiquement, mais l'entrée de l'Essaillon correspond à la sortie du Café de la Gare. On est juste, au même endroit. C'est derrière Beaubourg, c'est la rue du Renard. Voilà, c'est un quartier très, très agréable, très, très, très vivant. Très...
Ben moi, j'ai mon petit point de chute, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.
Ah oui, oui. Et oui, la rue Sainte-Croix, oui. Il y a la rue qui précède la rue Saint-Méry. Enfin, la rue Saint-Méry. J'aime beaucoup la rue Saint-Méry parce que c'est une rue de barricade aussi dans Les Misérables, la rue Saint-Méry.
D'accord. Donc.
Donc, ce spectacle sera repris aussi. À partir du mois de, a priori en octobre ou novembre de 2024. Et en ce moment, alors j'ai écouté, je ne sais pas si vous avez écouté notre cher président de la République cette semaine encore, parlait de théâtre, parlait du théâtre qu'il voulait mettre dans les collèges. Alors c'est une idée
scolaire.
On ne peut qu'applaudir, hein, peut qu'applaudir. Maintenant, comme disait Hugo, parler c'est agir. Donc derrière votre parole, il doit y avoir un peu d'action, un minimum d'action. L'histoire retiendra s'il y a eu action ou non sur ce sujet. Mais ce qui se passe, c'est que nous, on fait une spéciale le mercredi 7. Le mercredi 7 février, si vous écoutez cette radio, où j'ai la chance d'être aujourd'hui, si vous êtes prof, pensez que vous pouvez venir assister gratuitement au spectacle, en échange de votre nom et de coordonnées. L'idée étant de vous montrer ce spectacle et de planter une petite graine dans vos esprits pour dire que pourrait-on faire de ce spectacle avec nos élèves. Puisqu'il y a vu, il y a un petit livret qui est accessible à la sortie du spectacle. Et je trouve qu'il pourrait être intéressant pour des profs, nous trouvons, puisque c'est toute l'équipe qui travaille sur ce spectacle, nous trouvons qu'il pourrait être intéressant pour les profs de proposer à leurs élèves. Alors, on est plutôt dans une logique de lycée ou de dernière année de collège, proposer à leurs élèves d'entendre des textes du 19e différents. On verra différents, pourquoi ? Alors ça, j'en ai pas encore beaucoup parlé. Différents parce que certains textes qui sont en alexandrin sont racontés comme des histoires. On a vu un peu avec La mort du loup. Il y a un extrait d'un roman de Georges Sand qui s'appelle La mare au diable, qui est présenté sous forme de cinéma, donc on est au cinéma muet.
Il y a de l'image.
Il y a de l'image.
D'accord.
Il y a de l'image. Il y a donc l'idée, c'était vraiment de présenter ces textes autrement et montrer que derrière un texte, finalement, tout était possible, quoi. Moi, ce que j'aime beaucoup dans un texte, c'est quand vous avez un texte devant vous. Il y a eu un auteur du texte, mais dès que vous êtes comédien, vous vous appropriez le texte et le texte à ce moment-là vous appartient.
Absolument.
Totalement. Vous en faites ce que vous voulez. Avec la complicité du metteur en scène ou de la metteuse en scène, bien sûr. Mais après, tout est libre. Et donc, si vous êtes prof, le 7 février, le mercredi 7 février à 19h, venez à Les Saillons. Alors, il faut avant réserver quand même, il faut quand même nous contacter pour réserver une place. Mais venez assister à ce spectacle. Et puis après. Le numéro de téléphone, je ne connais pas par cœur, non. Mais c'est Les Saillons. Le site internet, c'est essayons-théâtre.com, je crois.
D'accord.
Voilà, vous laissez un message là. Et puis, avec cette qualification de prof, vous rentrez. Ça sera gratuit pour vous. L'idée étant de faire germer une petite graine. Voilà. Comment je pourrais amener une classe, deux classes, trois classes, un peu plus tard, en saison, puisque là je plante la graine et c'est assez bien foutu.
Ça va
pousser. Ça va pousser et voilà, à l'automne, viendra le temps des récoltes et peut-être viendrez-vous avec vos classes assister à ce spectacle.
Donc on finira par l'amour.
On finira par l'amour, évidemment.
Entre-temps, on va écouter quelque chose de Nico.
Dors, bois et mange, Dieu te sourit complaisamment.
Race de gars.
Dans la fange, rampe et meurt misérablement.
Race de la belle.
Ton sacrifice flatte le nez du séraphin.
Race de gars.
Ton supplice aura-t-il jamais une fin?
Race de la belle.
Vois tes semailles et ton bétail venir à bien.
Race de gars.
Tes entrailles hurlent la faim comme un vieux chien.
Race de la belle.
Chauffe ton ventre à ton foyer patriarcal. Dans ton antre tremble de froid, pauvre chacal. Aime et pullule, ton or fait aussi des petits. Cœur qui brûle, prends garde à ses grands appétits. Tu crois et broutes comme les punaises des bois. Sur les routes, traîne ta famille aux abois. Ta charogne engraissera le sol fumant.
Race de gars.
Ta besogne n'est pas faite suffisamment.
Race de la belle.
Voici ta honte, le fer est vaincu par les pieux.
Race de gars.
Au ciel monte et sur la terre jette Dieu.
Thank you.
prénom, Baudelaire, effectivement, avec une petite dédicace pour Agathe, une de mes élèves, parce que ce matin, je dis à mes élèves d'apprendre leur théorème de maths comme ils ont pu apprendre des textes quand ils étaient petits. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Ils m'ont tous regardé avec des grands yeux en disant « Mais qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il n'y a que Agathe qui, après, m'a dit « Monsieur, vous auriez pu réciter l'albatros en entier quand même. »
J'adore. Ben, je ne peux, alors là, tu me tends la perche, je ne peux que faire une petite transition, puisque dans le dernier acte de cette pièce, le dernier acte, c'est l'amour.
Voilà.
Le dernier acte, c'est l'amour. Et dans l'amour, figure-toi que dans l'amour, j'ai mis un texte de Baudelaire, alors qui va paraître surprenant, qui est une charogne. Une charogne dans l'amour, bon, oui, mais ce texte est tellement beau de contraste, d'image, tellement parlant. D'ailleurs, rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire à point, et de rendre centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons. Je vous laisse l'envie de venir écouter ce texte. Allez, saillons. Oui, le dernier acte de 19.5, donc, c'est l'amour. L'amour, parce que finalement, nous sommes tous périssables. On a tous le sentiment de... On se donne l'idée de pouvoir vivre éternellement, et puis il faut bien se rendre à l'évidence. Nous sommes tous mortels. Voilà. Et une fois qu'on a accepté ce principe, comment on lutte par l'amour. Donc le cinquième et dernier acte de 19.5, c'est l'amour. Et il se termine, je ne résiste pas à l'idée de vous dire les quelques derniers vers qui concluent ce spectacle. Je les ai empruntés, alors... dans les formes un petit peu particulières d'écoute de texte, les emprunter à Cyrano de Bergerac, à Edmond Rostand. Et évidemment, je ne pouvais pas faire des choses simplement, donc j'ai choisi d'interpréter cette fameuse scène du balcon, qui nécessite la présence sur scène, théoriquement, de deux personnages. On verra, donc je vais interpréter Roxane et je vais interpréter Cyrano. Évidemment, à la radio, vous n'avez pas tous les détails techniques. Comment fait-il pour interpréter Roxane ? Puisque naturellement, je suis quand même plus proche de Cyrano que de Roxane. Roxane. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi ? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons, ils cherchent votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Ils trouvent tout de suite, oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand, et vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont plus vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude, certes. Et vous me tueriez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non. Non. Grimper sur le banc, alors, vite. Non. Comment non ? Laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement sans se voir. J'espère que vous, chères auditrices et chers auditeurs, vous pourrez me voir, vous pourrez voir ce spectacle. En tout cas, je vous invite, je vous accueillerai avec grand plaisir un de ces mercredis à l'Essaillon, donc 6 rue Pierre-Hollard, dans le 4e, métro Hôtel de Ville.
Ou Rambuteau.
À 19h. Voilà. C'est jusqu'au 28 février. Donc il reste 5 dates, puisqu'il y a une date où je suis en tournée pour Valjean, donc une date de relâche qui est le 21 février. Donc le 21 février, on oublie, mais les autres jours, les autres mercredis, c'est grand ouvert. Et surtout, si vous êtes prof, le 7 février, vous n'êtes pas réservé, mais presque. Merci à vous pour cet accueil aujourd'hui.
Et on va se quitter sur le petit cadeau d'Evelyne et Jean-Marie, deux petits textes, et ensuite c'est Bulle de rêve sur Radio Libertaire, et ça sera en direct le jury du Festival du film d'animation du PIAF.
C'est parti aussi de la...
Ce ne sont pas mains de géants. Ce ne sont pas mains de géants. Ce ne sont pas mains de géants qui ont forgé nos chaînes, ni le crime. Elles sont des mains habituées à elles-mêmes, vides d'amour, vides du monde. Le commun des mortels ne les a pas serrées. Elles sont devenues aveugles, étrangères à tout ce qui n'est pas bêtement une proie. Leur plaisir s'assimile au feu nu du désert. Leurs dix doigts multiplient des zéros dans les comptes qui ne mènent à rien qu'au fin fond des faillites, et leur habileté les comble de néant. Ces mains sont à la poupe au lieu d'être à la proue, au crépuscule au lieu d'être à l'aube éclatante, et divisant l'élan, annule tout espoir. Ce ne sont pas des mains condamnées de tout temps par la foule joyeuse qui descend du jour, où chacun pourrait être à tout jamais juste et rire de savoir qu'il n'est pas seul sur terre à vouloir se conduire en vertu de ses frères pour un bonheur unique. Où le rire est une loi. Il faut, entre nos mains, qui sont les plus nombreuses, broyer la mort idiote, abolir les mystères, construire la maison de naître et vivre heureux. Paul Éluard, merci.
Bonne, le 14 mai. Puisqu'il faut bien vivre, continuer à rire, à respirer, manger, parler, marcher, ne pas rester immobile au bord de la route, hébété, avec ce ciel immense sur les épaules. Puisque le sang remue encore, le cœur bat trop rapide, trop vite dans sa cage, puisque le vent siffle dans ce corps en déroute, puisqu'à l'intérieur tout s'est effondré, mais que je suis resté debout dans l'arrogance de la vie. Puisqu'à présent, le silence est cet ami étrange, puisque je suis au bord du monde, dans l'éternelle nuit étoilée. Alors les mots reviennent, petits cristaux sur l'huile noire. Ils se soulèvent et jaillissent timidement, petite bouée où les naufragés respirent. Alors je suis revenu au premier des premiers temps, au plus ancien, au tout début, il y a des millénaires, au temps où tous les sens étaient en éveil, quand on était sans cesse aux abois, quand la peur était respiration, quand la vie au jour le jour était à gagner. Alors je suis revenu à l'instant, à la minute, à la seconde.
Et je vais dans un instant, moi, lancer le générique de Bulle de rêve. Je signale quand même, juste en petite parenthèse, que Patrick Kipper reprend ses programmations de Mots et Musique à la librairie du Monde Libertaire dimanche prochain avec Frédéric, qui présentera son spectacle Vincent, Auguste, Paul. À vous d'en déduire qui sont ces Vincent, Auguste et Paul. Bulle de rêve, c'est parti. Thank you.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bulle de rêve. Je suis ravi de vous retrouver pour notre traditionnelle émission tous les ans maintenant, ça fait quelques années qu'on le fait, de jury critique de retour du PIAF de cette édition 2024. Une édition, vous avez entendu en introduction un morceau de la musicienne Val Power qui s'appelle Respite sur l'album Tauten, une musicienne lyonnaise qui est la compositrice d'une réalisatrice qu'on aime beaucoup au festival qui s'appelle Virgin Keaton et qu'on a eu la chance de recevoir cette année